Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Thomas Loridez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La vie du bon côté. Et cette question, cet après-midi, avez-vous déjà pensé à reprendre vos études en tant qu'adulte? J'ai 45 ans, je bosse et je reprends des études. Voilà le genre de témoignage que nous attendons aujourd'hui. Et si vous aussi, vous repreniez les études de vos rêves à l'âge adulte, comment s'organiser? Qu'est-ce qui est important pour réussir? On va en parler jusqu'à 15h. Bonjour Marie-Pierre Prodhomme.
Bonjour Thomas.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Vous êtes coach, hypnothérapeute, nutrithérapeute et formatrice en hypnose. Et vous êtes dans cette démarche-là, vous avez repris vos études et vous dites que c'est une merveilleuse aventure.
C'est une superbe aventure qui demande énormément d'organisation, mais qui me comble vraiment.
Alors on va rentrer dans tous ces détails d'organisation, mais pourquoi avoir eu envie de reprendre vos études à l'âge adulte? Je crois que dans votre cas, c'est un peu particulier quand même.
Oui, en fait, à la base, quand je me suis intéressée aux études supérieures, j'ai fait des tests d'orientation professionnelle et ce que je souhaitais faire, moi, c'était la psychologie ou le droit. Ce qu'on m'a complètement déconseillé de faire et je me suis retrouvée dans des études à orientation économique. Néanmoins, ouais. Je gardais toujours cette idée de faire davantage la psycho, c'était cette idée qui était là, et tout en me formant et en réalisant mon travail au quotidien, j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui touchait au développement personnel, à la psychologie. Je me suis énormément formée et puis jusqu'à en faire véritablement mon métier et à former d'autres personnes en hypnothérapie. Jusqu'à un moment donné où Madame Onkelinx a proposé une loi qui est maintenant passée, qui redéfinissait les activités appelées psychothérapie. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que mon activité pourrait être assimilée à de la psychothérapie, puisque j'accompagne des personnes, plus ouais. En coaching de vie. Et donc je me suis dit, mais tiens, oui, soit ce sera assimilé, soit ça ne le sera pas. Soit j'aurai une reconnaissance de par mes autres formations, soit je ne l'aurai pas. Et donc je me suis dit, mais tiens, génial, merci Madame Onkelinx. Finalement, c'est le bon moment. Je me relance dans des études et je reprends un bac en psycho.
Vous dites génial, mais ça c'est votre réaction à vous. C'est pas forcément le cas de tout un chacun. C'est-à-dire que pour les uns, reprendre des études, c'est pas terrible, mais il faut s'y pousser quand même. Pour d'autres, voilà, c'est génial comme vous le dites. C'est un véritable défi qu'on se lance à chaque fois.
C'est un défi. C'est vraiment, je pense, quand même un défi organisationnel et au niveau de l'équilibre.
Ouais, parce que forcément, l'organisation en tant qu'adulte ou l'organisation en tant qu'étudiant, ça implique pas les mêmes choses.
Hein. Voilà, je vois bien qu'ils n'ont pas le même mode de vie et les mêmes préoccupations que moi. Ils ne sont pas préoccupés par leur
les
compta.
Mêmes soucis,
non, pas
alors,
tout à fait.
Par les différents contextes qu'on abordera dans cette émission. Alors je le disais, vous êtes hypnothérapeute mais aussi formatrice en hypnose, formatrice prof de yoga, donc votre activité c'est de transmettre, mais là vous changez de bord et de transmettre, vous passez à la notion d'apprendre.
Voilà, de toute façon apprendre je l'ai toujours fait et je le ferai toujours, c'est ce qui me maintient en vie je crois, j'adore ça. Et avec vraiment ce qui me motive, c'est apprendre quelque chose, l'utiliser, le transmettre, c'est vraiment ce qui me booste et je trouve ça génial de donner de la vie à ce qu'on apprend.
Quelle méthode adopter pour étudier, s'organiser pour les examens et l'aspect relationnel dans tout ça? Comment est-ce qu'on le gère? Est-ce que c'est évident de se retrouver en classe avec comme condisciples des jeunes qui pourraient être vos enfants ou des profs plus jeunes que vous? Ça vous est arrivé, ça, Marie-Pierre?
Oui, il y en a, oui.
Pas été trop compliqué?
Mais c'est spécial et mon métier me demande de toute façon tout le temps de m'adapter. Donc là ou ailleurs,
C'est pas toujours évident de s'adapter avec une tranche d'âge qui n'est pas forcément la même que la sienne.
Oui, elle est tellement différente. Que... voilà. Mais de toute façon, quelque part, je suis plus intéressée par ce qui nous fédère et par ce qui est commun que par ce qui est de la différence.
De même, quelles sont les facilités légales? Comment valoriser ses compétences professionnelles pour l'octroi de dispense? Comment vivre cette aventure au mieux? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Ou alors, qu'est-ce qui vous freine pour ne pas le faire?
La vie du bon côté avec Thomas Loridez.
Avez-vous déjà pensé à reprendre vos études? L'avez-vous fait? Comment ça s'est passé? Ou alors vous y pensez mais vous n'osez pas faire le pas? On en parle cet après-midi avec Marie-Pierre Prodhomme qui est coach, hypnothérapeute et concernée par cette reprise d'études à l'âge adulte. On aura Dominique au bout du fil d'ici quelques secondes. Mais d'abord, pour bien démarrer l'émission, ce qu'il faut comprendre, Marie-Pierre, selon vous, c'est que reprendre ses études, ça implique à la fois d'agir sur soi, mais aussi d'interagir avec des éléments extérieurs.
Voilà, donc il y a donc tout ce qui nous appartient en termes de motivation, d'organisation, d'hygiène de vie, qui est vraiment, pour moi en tout cas, tout à fait nécessaire, parce que j'ai des horaires qui sont parfois un petit peu...
Extensible.
Oui,
parce qu'on se disait en antenne, ce que vous me disiez de 5h30 à 23h, c'est pas rare ça.
Ça arrive, oui.
5h30 du matin.
Voilà, oui. Où je commence par de l'administratif, des préparations pour mes clients, pour mon école de formation, étudier les cours, aller aux cours, rentrer, recevoir des personnes, voilà, puis terminer par de l'administratif. Donc ça m'arrive d'avoir vraiment des journées qui soient très très grandes. Et donc ça demande une certaine forme physique, une hygiène de vie. Donc il y a de paramètres qui dépendent de moi, de la personne, je vais dire, et il y a d'autres paramètres quand on est dans un contexte, dans un projet comme celui-là, il y a des autres paramètres qui sont à prendre en considération. La famille, moi j'ai une famille, un mari qui est hyper hyper soutenant, j'ai quelques personnes qui m'encouragent et qui sont là vraiment pour me soutenir, ouais. C'est hyper hyper important. Il y a aussi tout ce qui est les proximités, où est l'école, où est le lieu de travail, où sont les lieux de loisirs, tout ça est à prendre en considération. Au niveau de la famille, c'est de réfléchir aussi, mais tiens, qu'est-ce que ça va impliquer directement ou indirectement pour les autres de reprendre un tel projet, parce que ça a des répercussions, ça c'est c'est inévitable.
Ça aura forcément des répercussions.
Oui, de toute façon.
Quoi qu'il en soit. On va aborder maintenant le côté auditeur, évidemment, avec celles et ceux d'entre vous qui souhaitent intervenir sur l'antenne de Vivacité, à l'image de Dominique qui ouvre le débat. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour. Marie-Pierre et Thomas.
Bonjour à vous, soyez la bienvenue. À 52 ans, vous avez repris des cours du soir pour un CAP pédagogique, c'est bien ça?
Oui, exactement. Oui, tout à fait. Je me suis lancée là-dedans parce que mon métier, c'est être éducatrice au troisième degré dans une école ici à Bruxelles. Mmh. Et ma frustration était que finalement, au niveau pécunier, le fait de ne pas avoir ce diplôme pédagogique me pénalisait, financièrement. Donc je me suis lancée là-dedans. Et c'est vrai que ça a été vraiment un défi parce que après autant d'années. Il a fallu se remettre sur les bancs de l'école et comme disait Marie-Pierre, il faut s'entourer de gens très encourageants, ce que j'avais à l'école, j'avais mon fan club à l'école. À la maison aussi, je n'avais plus d'enfants, je dirais des petits-enfants, j'avais encore deux filles aux études, une qui était en dehors de la maison et l'autre qui était à la maison. Et au final, j'ai eu beaucoup d'encouragement, même dans les moments où je baissais un peu les bras, ma fille m'a rappelé gentiment que commencer, c'est terminer, parce que c'est ce que je leur disais toujours. Quand eux-mêmes avaient des moments un peu de découragement, je leur disais, vous avez commencé, vous terminez.
Une forme de miroir, en fait.
Une espèce de miroir. Et puis finalement, je me suis prise au jeu, j'ai passé ma première année. Et j'ai mis en application les conseils que je donne à mes propres élèves, c'est s'entourer de gens positifs, travailler en groupe. Et surtout, quand l'un flanche, le soutenir. C'était des horaires qui étaient quand même assez difficiles parce que je travaillais 36 heures semaine. J'avais pas réduit mon horaire à l'école, donc c'était 8h, 4h à l'école. Je prenais mon cartable pour aller au cours du soir trois fois par semaine. C'était de 6h15 jusqu'à 10h30, si je me rappelle bien.
Oui.
Et puis rentrer à la maison, et pour être sûre, quand j'étais, je dirais, encore bien réveillée, je travaillais encore parfois jusqu'à minuit, mais il faut savoir que je me levais le matin à 5h. Donc c'est un peu comme votre...
Comme notre invité, oui. Comme Marie-Pierre. Physiquement, vous avez tenu ou vous avez eu des coups de mou?
Non, parce que enfin, j'ai la chance d'avoir une colonne vertébrale très très solide et au plus j'avançais dans mon périple, au plus je m'accrochais et je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, j'avais tellement d'années d'expérience dans le métier que j'avais, mais j'ai quand même pu apporter, mais j'ai reçu énormément aussi. Mmh. J'ai préparé mon mémoire et c'est quand, une fois que j'ai rendu mon mémoire, où là j'ai fait un malaise d'enfer.
Vous avez tout relâché en fait, c'est ça?
J'ai tout relâché et je me suis retrouvée 4 jours à la maison parce que je n'en pouvais plus. Et je vais dire, avant de récupérer un rythme normal après les études, ça m'a pris un an et demi. Hein.
Ouais. Marie-Pierre, vous vous reconnaissez, je suppose, dans le témoignage de Dominique là.
Oui, il y a des points communs, effectivement. Oui, oui,
vous en pensez quoi de ce qu'on vient d'entendre?
L'idée de vraiment s'investir et s'entourer de personnes positives, ça c'est hyper, hyper important. Ne pas parler de ce type de projet à des personnes qui ne sont pas mobilisées par
ils
ça,
vont pas
par
vous soutenir, ouais.
Voilà, et qui pourraient n'y voir que des inconvénients et ne pas tirer vers le haut.
Ouais. Le mot de la fin, Dominique, qu'est-ce que vous conseilleriez à l'image de Marie-Pierre à l'instant aux uns et aux autres qui souhaitent reprendre leurs études?
Ah mais moi j'encourage, hein. c'est pas parce que bon ben on a 50 ou 55 ans qu'il faut baisser les bras. Moi je pense que tant qu'on a l'envie de découvrir et ben, il faut y aller et je pense que il y a pas d'âge hein, pour recommencer pour prendre en main de nouvelles études. Bon, tant qu'on a la passion, ben il faut y aller quoi.
Merci à vous Dominique pour votre témoignage. Si je comprends bien tout ce que l'on se dit et tout ce que l'on s'est dit avec Dominique, Marie-Pierre, c'est que la première peut-être des caractéristiques à la reprise des études, c'est déjà de savoir si l'on est réellement motivé.
Oui, la motivation et la passion. La passion va faire que ce qu'on apprend va être rendu vivant. Et c'est ça qui va permettre de mémoriser, d'intégrer la matière. C'est j'ai envie d'apprendre ça. Quand j'entends ça, ça me fait penser à ça. Je peux l'utiliser dans tel ou tel cas. Je fais des liens avec la vie pratique. Et là, je vais pouvoir vraiment vivre la matière et apprendre en s'amusant. C'est s'amuser qu'il faut viser.
Ça se travaille la motivation?
Ça s'entretient et ça s'auto-entretient. Plus on est motivé, on se met des objectifs, on réussit ses objectifs et de les réussir, on a envie de continuer et d'aller toujours plus loin.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Et jusque 15h, on se demande si vous avez déjà pensé à reprendre vos études, auquel cas, comment ça s'est passé, comment vous êtes-vous organisé. Ingvild, au téléphone, nous donnera son point de vue d'ici quelques secondes. Je vous rappelle que c'est Marie-Pierre Prodhomme qui est votre invitée, coach, hypnothérapeute et concernée par cette reprise d'études à l'âge adulte. On parlait de la motivation à l'instant, mais il y a aussi la confiance en soi qui fait partie du process, Marie-Pierre.
Oui, je crois vraiment pouvoir se faire confiance et se faire confiance. Pour moi, c'est faire confiance aussi aux méthodes qu'on met en place, savoir comment on va s'organiser et voir, tiens, ce que je mets en place fonctionne, ben ça va booster la confiance en soi. Mmh. C'est quelque chose qui se travaille dans les personnes que j'accompagne, des gens qui partent vraiment de très très loin, de très très bas au niveau confiance en soi. Et tout doucement, on travaille là-dessus, simplement en mettant en place des actions concrète où la personne va vivre le succès, va vivre la réussite et donc chaque fois il se passe ce yes dans le corps où j'ai réussi et ça fait reprendre confiance en soi et chaque fois on ose poser un pas de plus et aller plus loin, aller plus haut dans ces défis.
La confiance en soi qui permet d'atteindre les objectifs que l'on se fixe.
Tout
coup.
À fait.
Confiance en soi, motivation, on parle de tout cela cet après-midi. En revanche, manquer de confiance en soi, ça peut nous faire échouer dans ce processus de reprise des études complètement?
Oui, je pense, parce que assimiler la matière, c'est une chose, mais se faire confiance quant à sa capacité de la restituer, c'est autre chose. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir confiance pour pouvoir restituer de la matière. Il y a quand même des pratiques spécifiques à mettre en place pour activer la mémoire et activer la restitution de ce qu'on apprend.
Mais disons que c'est l'un des maillons de la chaîne qui conduit à la réussite.
Ça fait partie et ça s'auto-entretient.
070 23 33 23, c'est le numéro Kingfield a composé. Bonjour à vous.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes indépendante et vous avez repris des études à 27 ans, c'est ça ?
C'est bien ça, c'est bien ça. Donc en fait, j'avais un commerce de vêtements pour enfants que j'ai ouvert à 22 ans. Et puis, bien, situation économique faisant, j'ai dû fermer donc mon magasin. Et puis, ben, il me restait la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc j'aurais pu, à l'aide du diplôme que je possédais déjà, retrouver un emploi. Mais je voulais m'orienter vers autre chose. Il faut savoir que j'avais deux rêves dans la vie, c'était ouvrir un magasin et puis de devenir prof. Et donc j'avais ouvert mon magasin, bon voilà, je n'ai pas pris ça comme un échec, mais bon, c'était terminé. Et donc j'ai repris 3 ans à l'école normale pour devenir prof de sciences éco. Donc à l'époque j'avais 27 ans, j'étais mariée, j'avais déjà une petite fille de 2 ans et demi, et je me suis retrouvée sur les bancs d'école avec des ados qui sortaient de réto, donc il y avait quand même un décalage au point de vue de l'âge, au point de vue ben, voilà, de la motivation aussi. Mmh. Mais je dois vous dire que ce sont les 3 plus belles années de ma vie.
Pourquoi ça hein?
Parce que c'était une dynamique tout à fait différente. Je suis tombée avec des enseignants et même des étudiants qui étaient vraiment charmants, qui m'ont encouragée à leur manière. Je dois vous dire que j'ai eu des moments de doute. Ils sont arrivés parce que je voyais l'accumulation du travail à fournir. Et puis, bien, quand je rentrais à la maison, bon, je devais m'occuper de la maison, de la petite, etc. Donc, ce n'était pas facile. Mmh. Mais malgré ces moments de doute, j'ai tenu le cap. Et tant mieux, parce que j'ai eu donc 3 ans après mon diplôme. Donc j'ai eu mon diplôme le 30 juin. Le 1er septembre, j'étais engagée dans une école, et où je suis d'ailleurs toujours actuellement. Et puis, ce qui a fait un petit peu, parce que moi j'ai repris des études plusieurs fois dans ma vie.
Ouais.
Donc ça, c'était la première fois.
Et la deuxième, c'est en 2010, hein, c'est ça ?
Et donc voilà, donc il y avait déjà quand même quelques années que j'étais dans l'enseignement, et je me suis tournée vers le coaching. Parce que les étudiants venaient à moi, me parlaient, me faisaient quelques confidences. Donc je répondais en tant que femme et en tant que maman, mais pas en tant que pro. Et ça me posait un petit problème.
D'accord.
Donc je me suis orientée, renseignée pour faire à la base du coaching scolaire. Et quand j'ai refait cette formation, ça m'a ouvert des portes et des potentiels. En fait, j'ai vraiment ouvert mes fenêtres vers l'extérieur. Et de là, j'ai poursuivi par d'autres choses.
Ça veut dire quoi, ouvrir des fenêtres vers l'extérieur ?
Alors, c'est ouvrir tous les potentiels que vous avez. Parce que cette formation, aussi bien sûr, on la fait dans un but de l'exercer, on est bien d'accord, mais avant tout, on le fait pour soi.
Oui.
Et donc, tous les exercices que l'on donne, par exemple, et je pense que votre invité, je crois qu'il va être d'accord avec moi, tous les exercices que l'on donne à faire à nos clients, nous les faisons nous-mêmes. Et donc, fatalement, on ne sait pas rester indifférent à ça.
On va demander à Marie-Pierre, justement, si elle est d'accord avec ce que vous venez de dire, Ingvild.
Oui, tout à fait. Dans les personnes que je forme chez Formatera en hypnothérapie, qui sont aussi là pour apprendre le métier d'hypnothérapeute et de coach en hypnose, nous faisons tous les exercices. Et les personnes vivent ces exercices, ce qui peut parfois amener des choses assez inattendues dans la vie des personnes. Mais de toute façon, il y a vraiment une progression professionnelle, personnelle, familiale. Il y a des choses vraiment importantes qui se mettent en place pour elles parce qu'elles vivent d'abord ça.
Oui. Justement, en parlant d'entourage, Ingvild, comment ça s'est passé avec votre entourage familial, social, amical ? Est-ce qu'on vous a soutenu ou est-ce qu'il y a eu quelques difficultés tout de même ?
Alors, il faut savoir que quand j'ai repris mes études donc à 27 ans, c'est mon ex-mari maintenant, mais bon, mon mari à ce moment-là, à l'époque, qui m'a encouragée à le faire. Et moi je me disais, c'est au point de vue financier, fatalement, les moyens vont être moindres, etc. Et ça, j'ai eu de la chance, c'est qu'à ce niveau-là, il a tout assumé. Donc ça, ça a été une très très grande chance. Maintenant, au point de vue, je pense que ma motivation, elle était là. Et je pense que les montagnes, je les ai traversées sans bien me rendre compte d'où j'allais vraiment, parce que voilà, j'étais motivée, j'avais la niaque, je voulais vraiment y arriver pour vraiment me prouver que j'étais capable d'eux. C'est aussi une petite revanche sur la vie. Et c'est ça, je pense, qui vous fait avancer.
Mmh. Merci à vous, Ingvild, pour le témoignage. Ceci dit, sur la dernière phrase, je crois que vous n'êtes pas forcément d'accord, Ingvild, sur la revanche sur la vie.
Oui.
Non, j'ai pas lu ça en préparant l'émission, que la revanche n'est pas forcément l'un des moteurs les plus...
Ah, j'avais compris Ingvild. Donc,
Non, vous, Marie-Pierre.
Ah oui, ok, d'accord. Ouais. L'idée de revanche, peut-être pas, mais de faire ce qu'on avait envie de faire et voilà, de progresser. Voilà, je préfère les versions positives aux idées de revanche, mais je crois que c'était dans une connotation positive que ça a été mentionné par l'auditrice.
Et utilisé et mis en place. Merci à Ingvild pour son témoignage. 070 23 33 23 pour faire de même et nous apporter votre éclairage à vous. Sinon, la page Facebook ou le SMS 3063.
De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Loridez.
Et avec Marie-Pierre Preud'homme, votre invitée cet après-midi, coach, hypnothérapeute et concernée par la reprise d'études à l'âge adulte. C'est notre sujet en ce début d'après-midi. On aura Christian d'ici quelques secondes au bout du fil. On parlait d'image de soi, on parlait de confiance en soi, on parlait aussi de motivation tout à l'heure. Mais il y a cette notion d'hygiène de vie qui est un point important du processus, Marie-Pierre.
Oui, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important. C'est de donner au corps ce dont il a besoin. Je considère que ce que je vis, enfin bon, tout est relatif, hein. Une maman avec 3 enfants et un boulot, je crois, est plus dans une situation plus difficile que la mienne. Mais néanmoins, il y a un rythme qui est là, rythme au niveau du travail, rythme au niveau de l'étude. Donc c'est se lever tôt, c'est aller dormir parfois tard. Et donc il y a des choses à mettre en place, des choses à faire et à ne pas faire au niveau alimentaire, au niveau du sommeil. Il faut voir simplement s'oxygéner. Sans oxygène, rien ne se passe correctement dans le corps. Donc s'oxygéner, ça se fait par le mouvement. Être dehors, marcher, ben on écoute Vivacité dans son téléphone avec ses écouteurs, par exemple, plutôt que de faire ça chez soi, son salon. Donc, marcher, bouger, être à l'air, c'est hyper important. Une chose qui est vraiment aussi de la plus haute importance, c'est de s'hydrater correctement. Ça me fait penser aux personnes âgées qui ont des problèmes de mémoire. Il y a un cercle vicieux qui se met en place. Le centre de la soif est défaillant, déficient. Elles ne sentent plus qu'elles ont soif. Elles ne s'hydratent pas. Le volume sanguin qui arrive au cerveau diminue. Et donc ça amène des problèmes au niveau mnésique et au niveau cognitif. Donc par exemple, boire de l'eau pour garder un volume de sang qui soit constant et qui soit suffisant, c'est quelque chose qui est hyper important. Alors une autre chose, c'est le premier pas qu'on prend
le matin.
Il faut vraiment ce premier repas, on s'arrange comme on veut, même si c'est une poignée d'amandes, de noisettes, peu importe, mais je veux dire, même si on le prend en étant dans la voiture, il faut quand même le prendre. Ce qu'il ne faut pas qu'il soit, c'est glucidique, c'est-à-dire sucré ou à saveur sucrée, donc tout ce qui est céréales industrielles, du pain, de la confiture, des toxiques comme l'aspartame, etc.
Tout ça, on évite.
On jette.
On n'évite pas, on jette, très bien. Pour être bien concret, vous, votre premier repas, il consiste en quoi ?
Alors, ça peut être du flocon d'avoine, mais plus. Hein, si vous le voyez, ça vous donnerait tout de suite envie. Il y a des, il y a de la pâte d'amande dedans. Il y a des fruits secs. Il y a des raisins secs. Ça peut être aussi des œufs avec du vrai bon gros pain.
Ah oui, vous mélangez sucré et salé pour le premier
pas
repas.
Pas de sucré.
Le raisin sec, c'est sucré.
Oui, c'est sucré, mais c'est rien parce qu'il vient en plus de tout le reste. Donc, s'il y a du sucre, il faut qu'ils viennent à la fin et en infime proportion par rapport au reste du déjeuner. Donc, que ce soit du jambon, du vrai gros pain bio, qu'est-ce que ce soit des flocons type flocons d'avoine, des œufs, tout ça, ce sont des top déjeuners. Les fruits secs sont très très bons, dont les noix de cajou, tout ça, c'est très très bon. Mais ce qu'il ne faut pas prendre, c'est des choses comme de la confiture, du chocolat.
Qui font monter le taux de...
Exactement, qui font monter le taux de glycémie. S'est mis très très haut et donc lui va redescendre aussi bas et aussi rapidement. Et donc au niveau du corps et donc au niveau du cerveau, ce n'est pas du tout ce
efficient.
Qu'il faut. Voilà.
Donc l'alimentation, c'est l'un des critères qu'il faut surveiller.
Oui.
Et puis, il y a cette notion de biorhythme. C'est, je vais le dire différemment, c'est peut-être apprendre aussi à se connaître.
C'est apprendre à se connaître. Alors, c'est pouvoir sentir aussi, donc, en fonction de la journée, idéalement, on va redescendre en activité aux alentours de 17 heures. Redescendre en activité, ça ne veut pas dire cesser des activités, mais c'est au niveau de la vigilance.
Oui.
Par exemple, attention aux ordinateurs. La lumière bleue des ordinateurs va être vraiment très compromettante au niveau du cycle de la mélatonine et donc va perturber le sommeil et la récupération du sommeil.
Donc on évite le soir ?
On évite ou alors on installe un filtre bleu sur le PC. Non, ce n'est pas un drap bleu qu'on met au-dessus de son écran.
Non, ça ne ressemblera pas à un fantôme, très bien.
C'est juste quelque chose qu'on télécharge gratuitement et qui modifie les couleurs de l'ordinateur.
La perception que l'on peut avoir, oui.
Aussi, il y a des activités au niveau du PC qui vont être plus excitantes que les autres et qui vont amener davantage de dispersion au niveau de l'esprit, à l'inverse de la concentration. Et donc, ça, ce n'est pas conseillé pour pouvoir se préparer à l'étude. Donc, arrêter les activités excitantes et dispersantes une heure et demie avant d'aller
se coucher.
Se coucher. Et être à l'écoute. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau où étudier ça va être beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile, ça se joue au niveau de l'hippocampe. Le matin on est beaucoup plus productif au niveau de l'étude. Donc s'écouter par rapport à ça et écouter le corps, commencer par une sorte de petit échauffement, comme quelqu'un qui fait un entraînement sportif. Il ne va pas d'un coup se mettre à courir à fond, il y a un échauffement. Pour l'étude et pour la concentration intellectuelle, c'est la même chose.
Mmh.
C'est d'abord lire.
C'est la bonne activité au moment adéquat.
La bonne activité. Donc, il faut pouvoir se dire, tiens, là, je n'arrive pas à me concentrer dans une étude stricte, alors j'adopte une autre méthode. Et ça demande vraiment une écoute de soi, une connaissance de soi. Et on n'est pas dans le « je suis fatigué, je ne fais rien ». Non, je suis fatigué, je peux faire quelque chose qui est adapté à ma fatigue.
Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que l'on se dit depuis quelques minutes de cette hygiène de vie ? Est-ce que vous y faites attention ? 070 23 33 23. On prolonge la conversation avec Christian qui nous rejoint. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien voilà.
Le bienvenu. J'allais vous dire que, enfin, rappeler aux uns et aux autres que vous avez repris des études à 50 ans. C'est bien cela.
C'est tout à fait ça. Donc ça s'est très bien passé. Donc je suis tombé sur des profs géniaux qui ont de l'andragogie et qui ont travaillé avec l'adulte que j'étais. Et en même temps, je me suis mis au niveau de tous les âges parce qu'on était à peu près à 50 au départ, il y avait tous les âges. Donc il y a des gens de mon âge, 10 ans, 20 ans, 30 ans au moins.
Ouais.
Et donc ça se passe bien parce que les gens ont l'esprit social. Donc c'était des cours d'éducateurs. J'ai réussi mes 3 ans, mais malheureusement j'ai loupé mon TFE parce qu'en tant qu'adulte de 50 ans, j'ai voulu aller trop en profondeur, si vous voulez, dans une thèse, plutôt que de faire le travail de fin d'études où on touche un peu à tout sans vraiment aller trop profond et arriver à une conclusion. Et là, je venais demander un petit conseil, comment me remettre en question en tant qu'adulte pour ne pas rater la prochaine fois mon TFE. Enfin, je sais que c'est difficile de répondre à l'antenne, mais en fait, juste avoir quelques pistes. Quoi.
TFE, on rappelle que c'est le travail de fin d'études, Marie-Pierre.
Oui, Christian, juste ce que je pourrais vous conseiller, entre guillemets, enfin, c'est plutôt un partage d'expérience personnelle, c'est que tout ce qu'on a acquis dans une vie de personne et dans une vie professionnelle avant de reprendre des études n'est pas nécessairement le bienvenu. Et donc, c'est plutôt de se mettre vraiment en quête de ce qui est attendu et demandé. Et donc, c'est demander au professeur qu'est-ce que vous voulez voir exactement figurer dans le TFE. Et là, c'est facile. On suit simplement ce qu'il demande. Et là, on met de côté ses connaissances ou ses réflexions personnelles, même si on se dit, tiens, ce que j'avance, quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu quatre guerres en retard de ce que je mets moi en place dans ma pratique professionnelle, de ce que je sais. Mais ok, si c'est ce qui est demandé, je me plie à ça.
Ça veut dire quoi, Christian ? Ça veut dire qu'il y a une facilité, une faculté à être plus rapidement hors sujet ? C'est ça ?
Oui, c'est, il faut être. Oui, on est plus facilement hors sujet, mais aussi on a vraiment envie de, comme elle dit, d'aller en profondeur dans ce qu'on a expérimenté, un peu comme une grande vérité, si vous voulez. Et en fait, c'est vrai, pas tout à fait ça. C'est vraiment pouvoir démontrer avec d'autres choses, d'autres comparaisons, etc. Et ça, c'est vrai que ça devient difficile en vieillissant de le faire, mais c'est impossible de se remettre en question, puisque le travail dans le social, c'est souvent se remettre en question.
Ouais, ouais. Et d'aller voir comme ça le prof pour se faire expliciter, peut-être différemment, et savoir quelles sont les limites du sujet, ça pourrait vous correspondre ?
Oui, tout à fait, je pense. Oui, c'est vraiment remettre en question ce qu'on a vécu, ses habitudes, ses formations antérieures, etc. Et vraiment arriver, comme elle dit, à prendre ce qui est attendu, et même parfois inattendu d'ailleurs.
Ouais. C'est l'une des problématiques, ça, Marie-Pierre, de désapprendre peut-être ?
Oui, tout à fait. Moi, dans ce que je vois ici au cours, il y a des choses qui m'étonnent assez, et pour être tout à fait franche, il y en a, je me dis, oula, si j'appliquais ça avec mes clients, je ne suis pas sûre que ça les aiderait vraiment. Mais ce n'est pas important. Je fais la part des choses. J'apprends ce qu'on me dit d'apprendre et je vais restituer ce qu'on me demande de restituer en l'affirmant. Parce que ça, on m'avait dit, c'est quelque chose qui va peut-être être la plus grande difficulté.
Ouais, c'est ça,
tu puisses, voilà, pour le dire poliment.
Rester dans le cadre. Rester dans le cadre, ça, Christian, ça vous semble possible ?
C'est tout à fait ça, oui, je pense qu'elle a tout à fait raison. Je dois me remettre dans le sens de restituer ce qu'on me demande et peut-être de laisser un peu sur le côté ce que j'ai appris, si pertinent soit-il, mais vraiment, oui, c'est juste.
Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Loridez.
Et avec Raymond, au bout du fil d'ici quelques secondes. D'abord, le message que nous a envoyé Isabelle par SMS. Bonjour, j'entends le sujet de la reprise des études. Je l'ai fait en 2006 pour la passerelle infirmière et j'ai été dégoûtée et j'ai abandonné. Pour la théorie, ok, mais les stages, je me suis sentie considérée comme si j'étais débutante. Aucun soutien de personne et très découragée. Marie-Pierre.
La question que je me pose, et c'est vraiment une question, ce n'est vraiment pas en termes de jugement, c'est un peu de revenir sur l'idée amenée par Christian.
Qu'on avait avant l'info de 14h.
Qu'on avait avant cette info, de se dire, mais tiens, on reprend des études, et c'est vraiment se remettre dans cette position de ligne de départ et faire, non pas table rase, mais on met sur le côté toute son expérience et toutes ses connaissances qui, quelque part, si elles ne sont pas bienvenues ou invitées à l'école, mais simplement on reprend la place de l'élève, on est position basse, on est dans l'apprentissage.
C'est pas toujours évident de se déshabituer justement de tout ce qu'on a pu prendre l'habitude de faire, de penser, de réagir, de réfléchir.
Voilà, mais c'est adaptation en vue de l'objectif. Donc on écoute ce que le prof raconte, on lui restitue ce qu'il demande, parce qu'il y a l'objectif qui est l'obtention du diplôme. Après, je fais ce que je veux en sortant de l'école et ma pratique professionnelle, je la gère heureusement comme je veux, mais je me demande, dans le cas de Sylvie, est-ce qu'il y a peut-être eu une difficulté à justement se mettre dans cette peau de je suis niveau, entre guillemets, zéro, niveau départ, et je fais exactement ce qu'on me demande, parce que on s'adresse à moi, non pas en tant que personne, la personne que je suis, mais on s'adresse à moi en tant qu'étudiante qui est là et qui n'est pas censée savoir des choses. Donc peut-être qu'on lui a dit des choses qu'elle connaissait, qu'elle maîtrisait super bien, et peut-être qu'elle a été vexée par ça, ou ne pas se sentir reconnue dans ses capacités. Mais ce qu'elle ressentait, elle, était peut-être tout à fait différent de l'attention de celui qui est là pour transmettre, parce qu'il faut quand même se dire que l'enseignant, lui, il a une mission et il a une responsabilité, c'est de transmettre toute l'information. Alors quelque part, il peut très bien se dire, peu importe ce que la personne a comme bagage, moi je veux avoir la conscience tranquille et je fais comme si elle ne savait rien et je lui transmets tout. Voilà, mais je ne sais pas comment était la situation. Voilà.
Merci à Isabelle pour son message. Alors Isabelle parle de soutien de personnes, soutien de l'entourage, et c'est vrai que reprendre ses études, ça implique des changements à tous les niveaux. Comment bien les faire accepter à son entourage, Marie-Pierre ?
Je pense que ça se discute. Moi, je l'ai dit, j'ai une grande, grande chance. J'ai une famille soutenante, un mari qui est soutenant, des parents qui m'encouragent, quelques amis proches qui sont là pour m'encourager. C'est de pouvoir montrer à l'autre qu'on sera quand même toujours là d'une autre façon et qu'on ne l'abandonne pas. Je crois qu'il y a des situations où l'autre se sent abandonné et fatalement, le couple peut mal s'en sentir.
Mal s'en ressentir, ouais. On va prolonger tout cela avec Raymond qui arrive sur l'antenne de Vivacité. Soyez le bienvenu, Raymond.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez repris à plus de 40 ans des études pour une licence en marketing. Et alors donc, on parlait de cette implication sur l'entourage et sur le couple. Pour vous, ça n'a pas été simple.
Je dois dire que je conjuguais deux côtés négatifs. Le premier, c'est que je vivais une séparation et je commençais une nouvelle relation avec une nouvelle compagne. Et deuxièmement, j'avais l'intention de reprendre des études parce que dans l'emploi que j'occupais, j'étais un petit peu dans un bout d'un tunnel. Ouais. Et donc j'ai repris, après une formation de designer, j'ai repris des études de marketing, une post-licence à l'IFSEC, et je dois dire que ça s'est relativement bien passé, si ce n'est que ça a quand même eu le malheur de faire la fin de mon couple.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à une séparation? Par quelles étapes? D'abord, est-ce que ça a été un choix que votre moitié a accepté quand vous avez repris des études?
En fait, on en a discuté, mais elle ne voyait pas de contre-indication. Mais au fur et à mesure, effectivement, les cours ayant lieu le mardi soir et le jeudi soir, je rentrais chez moi, qu'il était 10h30 du soir, ce qui fait que la vie familiale était quand même fort compromise. Mmh. Et ça a été un des éléments qui ont certainement fondé notre séparation.
D'accord. Vous n'avez pas réussi à lui faire comprendre que c'était important pour vous?
Si, bien sûr, mais il faut être deux quand on parle. Ouais. Donc il faut avoir une personne qui parle et quelqu'un qui...
Donc vous ne l'avez pas senti réceptif, c'est ce que vous nous dites?
Pas tout à fait, non, effectivement.
Comment on fait dans ces cas-là, Marie-Pierre, quand on a quelqu'un en face qui n'est pas réceptif?
Vous venez en thérapie de couple.
Ouais.
Non, je crois que c'est fort important de laisser sa place à l'autre. Le dialogue est fort important. Et de se préserver des moments qui sont vraiment spécifiques pour le couple, des sorties, des moments où on se retrouve. Il faut garder ces bulles-là. Et pour pouvoir étudier au niveau du cerveau, si on est dans une instabilité émotionnelle, ça va tout à fait en contradiction avec les capacités mnésiques. Donc c'est vraiment important d'avoir une stabilité émotionnelle.
Raymond, c'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui d'avoir repris vos études?
Certainement pas, parce que j'en ai profité par la suite. Mais au niveau personnel, effectivement, c'était peut-être une erreur. À ce moment-là, peut-être aurait-il fallu que je les reporte à quelques années, le temps de stabiliser ce nouveau couple, il était en formation. Et c'est une erreur certainement que j'ai commise, que je ne commettrai plus, bien entendu, puisqu'il y a bien des temps qui s'est passé entre-temps.
Ouais.
Mais outre cela, ce que je dois dire, c'est que quand on est au-delà de 30 ans, si je puis dire, et qu'on est dans une fonction déjà active auprès d'une société, qu'on reprend des études, on sait fort bien pourquoi on le fait. Et donc la motivation, elle est d'autant plus décuplée. Mais en même temps, c'est-à-dire que vous impliquez d'autres personnes dans votre entourage. Quand vous êtes étudiant, vous n'impliquez que vos parents, et à la limite, ils sont peut-être là pour vous aider, et peut-être des amis ou des amis proches avec lesquels vous vivez peut-être une relation amoureuse. Quand vous êtes en couple, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Et les cours du soir ne sont pas nécessairement moins faciles, ou plus faciles, pardon, que les cours du jour.
Mmh, mmh.
Si ce n'est que c'est concentré en beaucoup moins de temps et que l'on ne se concentre que sur des cours essentiels. Les cours de marketing en cours du soir sont beaucoup plus pointus
concentré,
que les mêmes cours de marketing en cours du jour.
Mmh.
Mais on voit beaucoup moins de matière aussi.
Donc c'est l'une des problématiques aussi à prendre en compte quand on se lance dans ce genre de process, selon vous, Raymond?
Ah, pour moi, oui, parce que par la suite, moi, j'ai fait ça à l'IFSEC en 85-86, et puis 4 ans plus tard, j'ai été appelé à l'IFSEC pour y redonner cours, un même cours que j'avais appris. Mmh. Et donc, là, j'ai rencontré l'autre versant, je vais dire, de la difficulté, mais j'ai constaté que la plupart des gens qui venaient étaient quand même fort impliqués et s'y intéressaient. Par contre, il y avait toujours dans le fond de la classe 10% d'étudiants qui étaient là en roue libre et qui lisaient des bandes dessinées.
Ça a toujours été le cas.
Ça a toujours été le cas, bien entendu, mais quand il s'agit de personnes qui, la plupart du temps, ont été payées par leur entreprise pour suivre ces cours, je trouvais ça un petit peu léger.
Merci à vous, Raymond, pour être intervenu dans la vie du bon côté cet après-midi. C'est vrai que c'est compliqué hein, de savoir tout allier, la vie familiale, la vie scolaire, la vie sociale, la vie professionnelle, les loisirs et puis en plus les cours. Hein.
La bonne chose au bon moment, c'est vraiment hyper hyper important. Mmh. Chaque moment est spécifique pour faire une chose et on arrive à tout caser.
Il faut être clair dans sa tête du coup.
Oui, tout à fait.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Par SMS au 3063, on nous dit pas mal de choses cet après-midi. On a le message de Sarah et c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé l'aspect financier. Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'aspect financier qui est à mon sens le premier obstacle. J'ai bien envie de reprendre des études mais impossible car je possède déjà un baccalauréat donc aucune aide financière possible sauf si c'est un master que je veux reprendre mais pas de possibilité de démarrer dans une nouvelle branche.
Donc moi personnellement, la seule aide financière que je reçois, c'est la mienne. Ouais. Donc je suis autonome au niveau financier, donc j'ai mon activité professionnelle. Je serais incapable d'ailleurs de vous dire combien je gagne, ça c'est quand même un premier aspect. C'est que je ne suis pas dans une réflexion, et je n'ai jamais été dans une réflexion d'utiliser l'aspect financier comme étant un frein. Je crois que l'important quand on a un projet comme ça, c'est de se focaliser sur je vais y arriver et de se concentrer sur les moyens et non pas sur les freins, parce que des freins, il y en a des tonnes. Et donc si on se concentre sur les freins pendant qu'on perd de l'énergie à ça, on ne met pas de l'énergie dans les moyens.
Oui, mais là, je vais me faire l'avocat du diable. L'argent reste une réalité, et même si on n'a pas envie de le considérer comme frein, ça peut en être un tout de même.
Comme tout, il y a toutes les réalités existent, et ça dépend sur quoi on met le phare. Moi, ma première expérience, en fait, en termes de formation, je vous raconte un tout petit bout de mon histoire. C'est entre deux postes, puisque j'ai pas toujours travaillé pour moi. Je m'étais fait licencier et il y a une chose que je rêvais vraiment de faire, c'était une formation en instructeur fitness, coach sportif. Et je rêvais vraiment de faire ça. Et donc, licenciement, et je vois cette magnifique formation, qui était une formation qui durait 3 ou 4 mois, une formation plein temps, qui coûtait à l'époque l'équivalent de 150 000 francs belges, quelque chose comme ça. Ce que je n'avais absolument pas cet argent, mais il y avait ce rêve qui était là, parce qu'il y avait tous les cours de biomécanique, de physiologie, tout l'arrière du décor du niveau sportif qui m'intéressait vraiment, avec tout l'aspect santé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis renseignée au niveau administratif. Il y avait quelque chose qui existait à cette époque-là, qui était l'échec formation, qui n'existe plus actuellement sous cette forme-là. Et j'ai regardé ce qui était prévu au niveau de la loi, ce qui était interdit, ce qui ne l'était pas, etc. J'ai trouvé une petite faille administrative où j'étais parfaitement dans la légalité, où j'ai pris un statut d'indépendante, j'ai pu bénéficier de ces chèques, enfin bref. Tout était absolument dans les règles. J'ai pu payer ma formation. J'ai pu d'ailleurs récupérer de l'argent en faisant ça. Alors que à la base, honnêtement, si vous aviez regardé mon compte en banque, ma situation, c'était inenvisageable.
C'est-à-dire que vous avez transcendé ce que vous considériez comme des freins?
Voilà, exactement. Je me suis focalisée sur je veux faire ça, absolument. Et j'ai mis tout en place pour. J'étais focus sur les moyens. Et une fois qu'on est focus sur l'objectif et qu'on éclaire que les moyens, on aboutit son objectif. Alors, il peut y avoir des raisons et des choses qui font qu'on n'atteint pas son objectif. Et tous les freins, la majorité en tout cas, mais quelque part, ils servent, entre guillemets, à ne pas aboutir son objectif. Mais ça, c'est du coaching. Mmh. Et on va aboutir un objectif dans quel cas, si on est, vous parliez de cohérence tout à l'heure, si on est dans la cohérence, si on est dans la congruence, si ce qu'on veut atteindre correspond vraiment à nos valeurs, et ce à quoi on aspire, à ce moment-là, tout va se mettre en place et on va aboutir son objectif. S'il n'est pas vraiment nous, si on fait ça pour se venger de la vie, pour prouver. Effectivement, il y a des choses pour que les freins apparaissent plus et qu'on nourrisse ces freins. Mais si on est 100% en phase avec soi et si on est dans une dynamique « j'atteins mon objectif et mon objectif correspond à mes valeurs », ça, c'est vraiment un des piliers. On a toutes les chances pour pouvoir y arriver.
En séance de coaching, c'est ce que vous apprenez à celles et ceux qui viennent vous voir, peut-être?
Eh oui, que je coach pour eux, aider à parvenir à atteindre leur objectif et à dépasser ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je crois qu'il faut avoir
telle qualité.
Il me faut telle condition pour y accéder. Non, déjà, si on met ces conditions-là, c'est qu'on met déjà des limites.
070 23 33 23 si vous avez envie d'arriver jusqu'à nous pour nous faire part de ce que vous pensez sur la question de la reprise des études à l'âge adulte. Je vais passer en revue, Marie-Pierre, quelques messages qu'on nous a envoyés sur la page Facebook. On nous dit « Je suis prof dans l'enseignement supérieur et j'ai régulièrement des étudiants ayant le profil dont on parle cet après-midi. Ils réussissent généralement très bien et ont toute mon admiration. Chapeau à toutes et à tous. » Le soutien des profs, c'est important.
Oui, le soutien des profs est important et moi j'adore le contact que j'ai avec avec mes professeurs, quoi, parce que je suis un petit peu entre deux comme ça, entre le professionnel et l'étudiante.
Ouais. Et voilà. On a un statut particulier.
Mais oui, je pense quand même, oui. C'est assez
spécial. Non, parce que tout à l'heure, on disait qu'on doit se déshabituer, se désapprendre de ce que l'on sait de la vie des choses quand on rentre en cours, mais on garde quand même ce statut spécial pendant l'étude.
Oui, il y a quand même un statut qui est spécial, une relation au professeur qui est spéciale, avec tout le respect par rapport à ce que je disais, le professeur est là pour transmettre sa matière et donc voilà, moi je reçois positivement et avec beaucoup de plaisir ce qui est transmis.
C'est le message de Sylvie. Merci à vous Sylvie, on a celui de Véronique. J'ai recommencé en septembre à l'université, 50 ans dans 3 mois. C'est vrai que la majorité des profs sont plus jeunes que moi, mais l'avantage c'est que quand je parle avec eux, il est évident que je ne passe jamais pour une frotte-manche et j'ai droit au bonjour madame dans les couloirs.
Oui, c'est vrai que parfois c'est comique où certains profs me regardent et ne me connaissant pas, mais ils croient que je suis prof aussi. Mmh. Et s'adressent à moi. Ah, t'as cours ici, je te laisse le local. Ben oui, j'ai cours ici, mais ce n'est pas moi qui donne cours.
Je serai de l'autre côté, je serai pas sur le pupitre. Merci, merci à Véronique pour son message.
La vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité.
On aura Claire au bout du fil d'ici quelques secondes, mais avant ça, je vous rappelle que c'est Marie-Pierre Prudhomme qui est votre invitée cet après-midi, coach hypnothérapeute et concernée par la reprise d'études à l'âge adulte. Parlons un peu maintenant de l'aspect légal de cette reprise des études. Qu'est-ce qu'il faut savoir exactement?
Il faut savoir qu'il y a certaines études pour lesquelles il y a des aides pour des métiers en pénurie. Je ne les connais pas, je n'étais pas concernée par ça, mais ça vaut quand même la peine de s'informer.
Ouais.
Il y a aussi certaines aides où les personnes peuvent continuer à recevoir des allocations de chômage tout en continuant à étudier. Et là, elles n'ont droit qu'à une cartouche. C'est-à-dire, on ne peut que réussir. Si la personne ne réussit pas son année, l'ONEM n'interviendra plus de la même façon la deuxième année. Alors, il y a autre chose aussi qui est c'est un autre aspect, c'est le VAE, validation d'acquis d'expérience. Où on va pouvoir en fait valoriser ce qu'on a acquis au niveau à la fois personnel et professionnel et qui équivaut à ce que normalement on aurait appris par une filière officielle, ce qu'on aurait appris concrètement à l'école. Donc c'est un dossier qui est à remplir, c'est un dossier qui est quand même relativement costaud, moi j'y ai consacré beaucoup d'heures, où j'ai argumenté, mais tiens, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de personne, j'ai appris certaines choses, c'est démontrer ça, et ensuite, ce que vous proposez est examiné par un jury, vous pouvez aussi être entendu pour défendre ça à certains moments du dossier. l'école intervient pour vous aider à monter ce dossier. Moi, je dis vraiment un grand, grand merci à la Haute École parce qu'ils m'ont vraiment très, très bien aidé pour faire ce dossier-là. Et mais la VAE permet de recevoir des dispenses. Donc moi, j'ai reçu des dispenses relatives à mes études de base, où il y avait des cours qui étaient communs, des cours plus basiques comme les stats, le droit, l'économie. Mais à côté de ça, j'ai pu, par mon expérience et professionnelle et personnelle, démontrer que j'avais acquis comme si j'étais à l'école. Et là, ça donne droit à des dispenses, ce qui est, je trouve, une reconnaissance vraiment importante et à taille tout à fait humaine.
Ça permet de valoriser son acquis, son expérience. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas tant que ça de la VAE ?
Je ne sais pas. Les écoles qui soutiennent les élèves à faire ça sont assez méritantes parce que c'est un gros boulot administratif pour elles. Et donc moi je suis vraiment dans la gratitude par rapport à la direction et par rapport à l'école de m'avoir mis sur ce chemin-là et de m'avoir aidé. Mais c'est hyper hyper précieux parce que un cours dispensé, dans une situation comme ça, c'est cadeau, c'est extraordinaire.
La validation des acquis d'expérience. Voilà l'une des pistes que l'on vous donne cet après-midi. On va accueillir Claire qui rejoint l'antenne de Vivacité. Bonjour Claire.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous avez repris des études de cadre, c'est bien cela ?
C'est ça, oui, des cadres de santé plus exactement.
Alors replacez-nous dans le contexte, Claire.
Alors voilà, j'étais infirmière dans un service de chirurgie depuis 20 ans. Quand on m'a proposé le poste de chef de service, et pour ça, il faut avoir un diplôme en plus que simplement infirmière de base, c'est-à-dire cadre de santé. Et ce sont des études qui durent 3 ans, à raison d'un jour par semaine, avec TFE, stage, etc. etc. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais déjà dans ma fonction de chef. Donc, c'était pas évident de concilier tout ça, parce que bon, l'hôpital donne des congés d'éducation, mais ce n'est absolument pas suffisant pour couvrir les cours, les durées de cours. Donc, il faut y consacrer ses vacances, etc. Et voilà, c'est pas du tout évident au niveau familial et au niveau professionnel.
D'accord. Comment ça s'est passé pour vous le retour sur les bancs de l'école ?
Et moi, j'étais un petit peu stupéfaite parce que j'avais 50 ans. Je me suis rendu compte qu'il fallait se taire, il fallait accepter les règles.
Vous l'aviez oublié, peut-être.
Oui, et puis c'était même pas, pire que ce que j'avais connu en sortie d'humanité. C'était terriblement scolaire, avec des enseignants soi-disant professionnels de la santé, mais que je trouvais très très loin de la réalité du terrain. Mais bon, comme l'objectif, c'était avoir ce titre. Eh bien, moi et mes condisciples, on était un peu tous sur la même longueur d'onde. On se disait, bon, il faut se taire, il faut accepter les règles. Le but, c'est d'avoir cette certification et pouvoir exercer notre métier, quoi.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur, justement, le déroulé de ces cours ? C'était quoi ? C'est la partie grandement théorique plus que la pratique ? Le discours très abstrait ?
Non, le discours était collé assez bien à la réalité. Il y avait des exercices de management et des choses assez intéressantes. C'était surtout les exigences pour le TFE, la manière de la prise de présence au cours, alors qu'on est tous, on était presque tous des parents, on avait tous une famille, on était tous à gérer des ados. C'était un petit peu comique à ce niveau.
Vous êtes reconnu dans ce qu'on disait peut-être en début d'émission, à savoir qu'il faut laisser à la porte du cours tout ce qu'on sait peut-être.
Voilà, il faut se dire je suis ici comme un étudiant de première année, je dois passer les échelons parce que voilà, la fin justifie les moyens. Moi, je veux garder mon poste que j'aime bien.
Et même avec tout ça, vous ne regrettez pas d'avoir entamé ce processus-là ?
Non, pas du tout, parce que voilà, je m'épanouis dans ce que je fais. Moi, c'est jamais que 3 ans, quoi. C'est jamais que 3 ans où la famille est un peu mise à contribution, les vacances sacrifiées. Mais on en avait discuté en famille, mon mari, mes enfants et c'était pas éternel, quoi.
Ouais. Ils étaient dans le soutien par rapport à vous ?
Tout à fait. Tout à fait. Je n'ai plus cuisiné, j'ai plus fait de lessive, j'ai plus rien fait pendant 3 ans. Et tout le monde était d'accord et tout le monde était soutenant. Je dois dire que sans eux, ça aurait été impossible.
Ouais, mais c'est ce qu'on se dit aussi depuis le début de cette émission. Merci à vous, Claire, pour votre témoignage. Un mot quand même, Marie-Pierre, sur le témoignage de Claire autour de... de cet enseignement qui était difficilement compatible avec quelqu'un qui a déjà été dans la pratique, dans le quotidien, qui est adulte depuis longtemps, quoi.
Voilà, vraiment, comme dit Claire, se remettre dans la peau. Je suis étudiant et voilà, je suis là juste pour recevoir et on met de côté voilà, les autres.
Ça vous est arrivé aussi à vous, peut-être que ça vous traverse l'esprit, que c'est compliqué à faire et puis ce qu'on vous dit, bah, c'est pas forcément applicable stricto sensu dans la réalité?
Vers quoi essayez-vous de m'emmener?
Je ne vous emmène nulle part, je veux juste la vérité.
Non, disons que oui, j'entends parfois des choses au cours qui m'interpellent par rapport à ce que je vis en consultation ou à ce que je transmets. Voilà, j'essaye vraiment de cloisonner et de rester dans toute cette logique parce que quand on décontextualise des choses ou des informations, ben, on peut leur donner un tout autre sens. Et donc, ici, il faut bien se dire que c'est une formation qui est, pour moi, une bonne formation, une formation qui reprend toutes les bases. Et donc, pour toutes les bases, il faut toute l'histoire. Et il faut l'histoire et la préhistoire font partie du tout.
13h, 15h, la vie du bon côté, sur Vivacité.
Avec Michel au bout du fil d'ici quelques secondes. Mais avant ça, on va faire un petit tour du côté du SMS au 3063. On nous dit ceci, Marie-Pierre. Bonjour, pour ma part, je fais un boulot que je déteste et je suis sur le point de m'inscrire pour faire des cours de prothésiste dentaire, mais par correspondance, après avoir fait des tests de réorientation professionnelle. Je sais que ces cours sont reconnus et j'ai hâte de m'y mettre. Ma seule crainte est au niveau de mon organisation, car je vais devoir faire mon propre horaire.
Alors moi, j'ai une crainte supplémentaire, on va un petit peu en rajouter.
Ça va rassurer Joël qui nous a écrit.
Attention, c'est triste de se retrouver dans un boulot qu'on déteste et c'est bien honorable de le continuer. Mais se remettre à des études pour fuir ou échapper à quelque chose, ce n'est pas la meilleure des motivations. Ce qui va vraiment être la motivation, c'est être boosté pour aller vers quelque chose dont on rêve. Alors, si apprendre la prothèse dentaire, c'est quelque chose qui fait vraiment vibrer la personne et qu'elle rêve de ça, elle va trouver comment mettre les choses en place au niveau organisationnel, etc. Mais si c'est juste, entre guillemets, dans l'idée de sortir d'un boulot d'enfer et faire autre chose parce que c'est reconnu, parce qu'il y a des débouchés.
Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la revanche de la vie, quoi. Ça doit pas être le moteur principal.
Non, il faut vraiment avoir la niaque, le truc qui est là. Waouh, je rêve de faire ça et je suis hyper motivée pour le faire. Et ça va être le moteur organisationnel, le moteur pour trouver les moyens.
Et alors, pour conseiller Joël sur sa crainte au niveau de son organisation par rapport à son propre horaire, on peut lui conseiller quelque chose?
Alors, d'abord, tout ce qui est au niveau de l'oxygénation, au niveau de l'alimentation, voir ce qui est à faire au bon moment, étudier de préférence le matin, et savoir qu'il y a des moments où on n'a pas la forme, et là, c'est pas, soit on ne fait rien, on se met dans une vraie détente pour récupérer, ça a vraiment beaucoup d'intérêt, on sera beaucoup plus efficace par la suite. Mais par contre, pour évoquer un petit peu mes techniques d'études, lorsque moi je suis très fatiguée et que j'avais sur mon planning qu'il fallait que j'étudie tel cours et je vois j'en suis pas capable, je suis vraiment beaucoup trop fatiguée, l'esprit est embrouillé, il y a une technique que j'utilise qui consiste à raconter le cours comme si je le donnais à quelqu'un. Autant dire que mes deux fauteuils en face de moi, ils sont bourrés de matière. Et donc, je prends mes feuilles de cours et je leur donne cours. Donc, comment est-ce que je fais? Ben, simplement, je lis un premier mot, je décolle mes yeux de la feuille et puis je leur raconte le reste. Je reviens à ma feuille et je raconte. Et donc, ça demande une attention de se concentrer sur la feuille, extraire des mots-clés, pouvoir en parler, on s'entend le dire et en même temps on a le support écrit. Alors comme je suis en train d'essayer mes deux fauteuils qui eux restent complètement impassibles et que je m'acharne à les motiver, eh bien ça me motive moi de m'entendre en train de me raconter ces histoires et de faire tout pour qu'ils puissent me comprendre, eh bien ça me booste.
Mais on en revient en fait au début de cette émission quand je vous disais tout à l'heure transmettre versus apprendre.
Tout à fait. C'est appliquer. Moi, je m'applique à moi-même ce que je fais pour transmettre aux autres. Ça en revient à ça. Il n'y a pas de miracle. Une matière doit être travaillée de différentes méthodes et en utilisant le plus possible nos différents canaux, donc visuels, auditifs, l'écrit également. Tout ça est vraiment hyper important. Donc c'est aller au cours, pour moi c'est nécessaire. On a l'auditif, on a l'ancrage de la prise de notes.
Ouais, l'écoute en cours. Hein.
L'écoute, pour moi, elle est hyper, hyper importante. Il y a une chose quand même qui est à se dire dans le cas de reprise d'études. On entend des choses qu'on connaît déjà, enfin...
A priori.
Si c'est le cas, il ne s'agit pas de commencer à ce moment-là à regarder par la fenêtre. Parce qu'on n'est pas là pour, par rapport à soi, on est là par rapport à ce que le prof veut transmettre. Donc je ne note pas quelque chose pour moi le retenir puisque je le sais déjà, mais je le note parce que c'est important pour le prof. S'il le dit, ça veut dire qu'il veut que je le restitue. Donc, je vais le noter pour savoir ce que je devrais lui dire, même si je le sais. Et donc, faire travailler l'écrit, écouter. Moi, je m'enregistre beaucoup. Et comme ça, quand je fais des longs trajets sur Bruxelles, sur Mons, je me réécoute dans la voiture et je fais mes cours en roulant. J'ai ça aussi dans mon téléphone. Je vais me balader dans les bois. Les oiseaux me racontent mes cours.
Chacun sa technique, après.
Voilà.
Hein. Il y a ça aussi. Il n'y a pas de technique universelle, il y a aussi ce qui va être le plus approprié à l'un et pas
tout
forcément
à
l'autre.
Par contre, il y a vraiment des points communs à tous, c'est qu'il faut une répétition pour qu'une matière s'approprie, il faut de l'émotion positive, la matière doit être vraiment vivante. Si la matière n'est pas vivante, on va l'acquérir, ok, pour la restituer à un examen, mais elle ne va pas s'intégrer de façon profonde, donc la notion de plaisir dans l'apprentissage est hyper, hyper importante.
On va quasiment refermer cette émission avec le témoignage de Michel qui rejoint Vivacité. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous avez repris vos études à 33 ans, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et ça a changé votre vie professionnelle?
Tout à fait, tout à fait.
Alors on vous écoute, Michel.
Voilà, moi au départ, j'avais fait des études de logopédie. Et puis je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, et puis la vie a fait que mon couple a explosé, donc j'ai vécu toute seule avec mes filles, et je n'avais jamais travaillé pendant que j'étais mariée, donc j'étais restée à la maison. Et puis voilà, la nécessité s'est fait sentir de travailler. Donc j'ai fait un peu des petits boulots et puis j'ai décroché un job de secrétaire. Et puis un jour je me suis dit, mais voilà, pour pouvoir avancer un peu dans la vie, il faut que je reprenne des études parce que je n'avais pas trouvé en logopédie, j'avais pas trouvé d'emploi. Hein, à l'époque, il y avait trop de logopèdes sur le marché, donc voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser aux demandes d'emploi dans les journaux et j'ai vu qu'on demandait beaucoup de comptables. J'avais jamais eu l'idée de
devenir comptable.
De devenir comptable. Et puis je l'ai fait. Voilà, j'ai repris des études à 33 ans et tout en travaillant. À temps plein.
Ouais. Comment ça s'est passé, cette juxtaposition entre les cours et le travail?
C'était pas évident parce que j'habitais dans la région namuroise et que j'allais à Bruxelles tous les jours pour travailler. Je travaillais dans un cabinet ministériel, donc je n'avais jamais... Je savais quand j'arrivais le matin, mais je savais pas quand je repartais le soir. Je devais suivre des cours le jeudi soir, le samedi après-midi et le dimanche matin.
Oui, ça demandait une organisation par rapport à vos enfants, du coup.
Voilà, tout à fait. Mais j'avais la chance d'être très soutenue par ma famille. Et j'avais une sœur qui habitait près de chez moi et qui s'occupait de mes enfants quand j'étais pas là. Donc,
ouais, ça, voilà. C'est une aide précieuse d'avoir quelqu'un à proximité. Ouais.
Tout à fait.
Du coup, le bilan de tout ça, c'est que vous ne regrettez rien, finalement, Michel.
Je ne regrette absolument rien. Ça n'a pas toujours été très facile. C'était très fatigant. Je passais mes week-ends à étudier. Voilà, et puis...
Le petit conseil que vous donneriez aux uns et aux autres qui vont se lancer dans la reprise d'études à l'âge adulte, ce serait quoi?
De ne pas trop se poser de questions et d'y aller.
Ouais, c'est un peu la même chose que Marie-Pierre, hein, du
voilà.
coup.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand on réfléchit à ça a posteriori, on se dit, oulala, si j'avais pensé à tout ça avant, j'aurais pas commencé.
Pas sûr que j'y serais allé, d'accord.
Voilà, pas sûr que j'y serais allé, mais voilà. Et puis, voilà.
J'ai... Et puis, on va s'arrêter là, Michel.
Voilà.
Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci d'avoir été des nôtres. On sent quand même qu'il y a, il faut être bien conscient, Marie-Pierre, qu'il y a un effort physique qui va être demandé pendant quelques temps. Hein.
Voilà, oui, c'est ça. Mmh. Donc, importance de connaissance de soi et de l'hygiène de vie.
Et du sport, par exemple aussi.
Bien sûr, oui, certainement, tout à fait. Oui.
On va marquer une pause et puis on va revenir juste après pour la conclusion de cette émission. Et puis vous pouvez toujours d'ici là nous écrire par la page Facebook ou le SMS 3063.
Du bon côté sur Vivacité.
On va terminer notre tour des techniques à appréhender pour les études, hein, car vous avez donné quelques pistes tout à l'heure, notamment celle de l'écoute en cours ou de se mettre à la place des fauteuils. Bref, il y a aussi deux autres techniques dont on parle maintenant. Tout d'abord, le mind mapping, c'est ça?
Oui.
Ça veut dire quoi?
Travailler avec une carte mentale, carte heuristique, qui correspond en fait à la façon de fonctionner du cerveau. Donc le cerveau fonctionne de façon associative, il fait des associations entre les mots, entre les personnes, bien plus que de façon purement linéaire. Quand on est dans une prise de notes classique, on enfile les mots l'un à la suite de l'autre et puis on va à la ligne. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Le cerveau, si on lui dit le mot banane, il va associer la couleur jaune et puis le jaune, il pense ah oui, il faut que je repeigne ma cuisine qui est jaune, ben, acheter de la peinture, etc. Donc il fait des liens entre les choses. Donc, dans le mind map, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un cours sous cette forme où on met un thème central et puis on décline en branches qui peuvent correspondre au chapitre du cours et puis il y a des branches secondaires. Sans visuel, c'est franchement difficile à expliquer.
Ouais, non, mais on comprend la juxtaposition.
Voilà, mais c'est faire des liens entre les choses et une fois qu'on arrive à faire des liens entre les choses, c'est vraiment un discret de la mémoire. On retient les choses. Autre technique, le photoreading, la lecture rapide, ça vraiment je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, c'est respectueux de la façon dont le cerveau fonctionne. Donc ça consiste en fait à photographier les pages, à parcourir très très vite les lignes. Donc on ne les lit pas, ce sont juste les yeux qui courent sur les lignes. Oui. Et il y a une assimilation qui se fait déjà. Alors je ne saurais pas vous résumer parce que c'est toute une technique.
Et puis on approche de la fin de l'émission.
Et on approche de la fin de l'émission, mais il existe des techniques. Voilà, il y a la motivation, il y a les techniques.
Ça, c'est le photo-reading. Hein.
Oui, oui, la lecture rapide, le photo-reading, voilà.
Et la technique d'avant, c'était le mind mapping.
Le mind mapping.
Parce que je l'avais pas
bien dit. Je forme des étudiants aux techniques, et voilà, mais ça fonctionne pour eux comme pour moi. Ce sont de très, très beaux outils.
Le mot de la fin, en quelques secondes, pour vous.
Le mot de la fin, moi, je dois vous dire que j'accompagne des étudiants, et avant de reprendre ces études, il y en a qui m'ont vraiment boosté parce que je voyais que les outils que je leur transmettais et la façon de mettre en place la motivation fonctionnait. Ouais. Et je pense que ça m'a vraiment moi aidé aussi à me mettre en chemin. Je suis super heureuse de ma décision et parfaitement en cohérence avec moi-même et voilà, j'encourage vraiment vraiment à passer le pas de cette reprise d'études.
Merci d'être passée nous voir, Marie-Pierre.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Coach, hypnothérapeute, nutrithérapeute, formatrice en hypnose, on vous retrouvera puisque vous êtes une invitée régulière de La Vie du Bon Côté. Demain, dès 13h, 13h10, nouveau numéro de La Vie du Bon Côté. Demain, on dira oui à sa naissance. C'est un thème délicat que l'on va aborder demain. Dire oui à sa naissance, c'est dire oui aux conditions dans lesquelles nous sommes nés, tant au niveau matériel, économique, politique, qu'au niveau des conditions psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes moteurs, des troubles d'apprentissage. Ce qui va nous intéresser demain, c'est que vous nous expliquiez comment vous avez transcendé vos conditions de départ. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous avez envie d'en discuter avec nous demain via la page Facebook de La Vie du Bon Côté. D'ici quelques secondes, c'est aller-retour dans votre région, après les infos de 15h et puis la météo avec Denis Collard. Passez une excellente après-midi et donc rendez-vous demain dès 13h.
Vivacité, ma radio complicité.